vous aimez la musique, la chanson française, cher
Billy. Oui, j'aime bien, oui, oui.
Eh bien,
oui.
C'est pas de la chanson française.
Dommage. Dommage.
On va jouer avec Magali Ripoll. Alors, oui. Expliquez-nous ce que vous attendez de Billy, cher
c'est
Magali.
C'est pas de la chanson française, mais je suis sûre que Billy connaît quand même. C'est simple, je vais vous égrener quelques notes, pas trop, et vous allez reconnaître une chanson, son titre, s'il vous plaît, et même son interprète. C'est un blind test riff. Alors, un riff, c'est quoi? C'est l'ossature musicale d'une chanson. Il suffit de faire quelques notes qui se répètent, un peu comme une ritournelle, et toute la chanson tient dessus. Je suis sûre que vous allez
reconnaître.
Je
peux dire juste que cette chanson a un point commun avec Billy.
Oui, c'est vrai. Et voilà. Alors, c'est vraiment le fruit du hasard. Voilà. Alors, déjà, un gros, gros, gros indice donné par Sophie. Écoutez ça, Billy.
Comment dire?
C'est-à-dire qu'on on reconnaît vraiment à la note suivante. Mais vous voulez vraiment vous arrêter là?
Ouais, je vais rajouter un petit truc.
Michael Jackson.
En plus, avec l'indice, facile.
Allô, Billy, vous êtes là? Ou en train de danser.
Michael Jackson,
vous portez quoi comme pantalon?
Oui, Billy Jean.
Ouais, bravo. Ah, c'est dingue ce hasard.
Billy Jean de Michael Jackson. Il paraît que c'est ce petit riff qui a sauvé la chanson.
Exactement, ce riff de basse sur lequel repose toute la chanson, tout au long de la chanson, qui change à peine de note. Et ben c'est grâce à lui que la chanson existe, tout simplement parce que Quincy Jones, l'arrangeur, producteur, réalisateur de Michael Jackson, entre autres, ne voulait pas de la chanson, il n'était pas convaincu. Et finalement, Michael Jackson s'est enfermé dans son studio pendant des jours avec son bassiste, Louis Johnson, et ils ont essayé de trouver la meilleure tournerie possible de basse, et chose faite, ils ont réussi à la trouver, mais au bout de plusieurs jours de travail. Et une fois que Michael Jackson a été satisfait de cette ligne de basse, il a décidé d'en faire une introduction de 28 secondes, ce à quoi était très réfractaire Quincy Jones, et il commençait à être saoulé par cette chanson. Il lui a dit « Oh, it's very, very, very chiant ». Donc il ne voulait pas de la chanson, et finalement, Michael a insisté en lui disant que c'est ça qui donnerait envie de danser aux gens, et Quincy s'est décoincé, quoi, voilà. Et la chanson est née. Quel succès, 7 millions ouais. d'exemplaires vendus.
7 millions. Ça fait rêver. Ouais. C'est un festival de jeux de mots aujourd'hui.
Ouais, 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 tous, il va falloir que je me mette au niveau parce que là, attention. Quincy décoincé. Le plancher des vaches, je ne peux pas suivre. Excusez-moi.
Billy, en tout cas, ça fait deux bonnes réponses. Voici une question chiffre.
700 millions de Chinois. Emma. Avec ma vie, mon petit schéma. Mon mal de tête, mon poids au foie.
Elles ne seront pas 700 millions, mais 3 millions. Elles seront là dans 4 mois, mais qui sont-elles?
Ah, c'est tout, comme ça, voilà. vous nous dites ça comme ça. Elles sont 3
dans
4 millions.
Dans 4 mois, alors, déjà on est en janvier, donc ça va nous amener en avril ou mai. Ah non, ça dépend si vous considérez qu'on est fin.
Oui, plutôt en juillet.
Ah oui, donc c'est pas 4 mois du tout.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des oies sauvages. 3 millions d'exemplaires.
Des oies sauvages. Pour les JO.
Je sais pas, des amours de vacances.
C'est une drôle de proposition. Pourquoi Magali?
Pour accueillir les étrangers qui viennent visiter notre belle ville pendant les JO, je sais pas.
D'accord.
Alors, est-ce que c'est des êtres humains?
Hein?
Est-ce que c'est des,
non,
ce
pas
sont
du
des
tout.
Êtres humains?
Est-ce que c'est une maladie?
Non, on n'espère pas.
C'est pas la vraie.
Je vous fais des propositions.
Des
écoutez bien. Sont-ce des bananes, des casquettes ou des casseroles signées Amélie ou Dea Castera?
Il va y avoir vraiment ça, enfin, soit des bananes, soit des casseroles, soit des...
Des casquettes.
Des casquettes.
Bah, qu'est-ce que vous diriez?
Ce serait, elle en a déjà tellement que...
Ouais, non, des casseroles...
bananes.
Qu'est-ce que vous dites, Billy?
Bananes. Mais les bananes, peut-être le sac qu'on met sur le ventre.
Non, mais c'est peut-être des bananes simplement, parce que les bananes, c'est bon pour le sport, et c'est les Jeux Olympiques, simplement.
Ouais,
on a besoin d'être approvisionné quand même. Moi, j'irai sur les bananes.
Ouais, parce que c'est
bizarre,
plus,
mais bon, ouais.
C'est plus étonnant. Allez,
laissons-nous glisser sur les bananes.
Donc, je bloque la banane. 3 millions de bananes arriveront dans 4 mois, et c'est une bonne réponse. C'est la troisième bonne réponse. C'est le groupe Sodexo qui a donné ce chiffre. Elles vont débarquer pour les Jeux Olympiques. On attend 15 000 athlètes quand même. Et petite contrainte, l'organisation a tenu à proposer 80% de denrées alimentaires produites en France. Les bananes devront être bio et équitables. L'objectif affiché, diviser par 2 l'empreinte carbone des repas fournis pour élaborer les 500 recettes pendant cet événement. On espère que dans ce domaine aussi, on aura des médailles. Voilà, et ça fait trois bonnes réponses. Bravo, Billy. Et là, on va jouer au qui ou quoi.
Europe 1, le qui ou quoi.
Alors, on va écouter un micro-trottoir où des individus vont vous donner des indices pour trouver de qui ou de quoi on parle. Évidemment, ça a toujours un rapport avec une personnalité ou un événement qui est en lien avec l'actualité. Écoutez.
La toute première édition a eu lieu en France.
Avec ma mère, on adore les regarder. Surtout, on adore regarder les gens tomber, en fait.
J'ai vu que c'était les Norvégiens les plus forts.
Il y a eu plein de scandales et de boycotts.
La prochaine édition aura lieu à Milan.
Nelson Montfort, je t'aime.
De quoi parle-t-on ?
Patinage artistique, tout de suite, j'y pense.
Ouais, quand on pense à Nelson Montfort et des gens qui tombent, c'est vrai qu'on a envie de penser au patinage artistique.
Alors, patinage artistique, c'est l'une des disciplines.
Ah, d'accord.
Alors,
Mais les JO d'hiver.
Très bonne réflexion.
Et
pourquoi on en parle aujourd'hui, Billy ?
Ben, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Oui. Parce que...
Vite sur Google. on regarde.
Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Ben, parce qu'ils fêtent leurs 100 ans aujourd'hui. Ah. La toute première édition a effectivement eu lieu en France, à Chamonix, pendant 11 jours, 258 athlètes de 16 nationalités différentes s'étaient affrontés au cours de 16 épreuves dans 6 disciplines. Patinage, hockey sur glace, saut à ski, bobsleigh et même curling. La prochaine édition des JO d'hiver aura lieu autour de Milan en 2026 et la France est pressentie pour accueillir ceux de 2030. On va voir déjà comment ça se passe cet été.
Je vous sens pas optimiste, bizarrement.
On va voir.
Il y a quelques petits doutes.
Est-ce qu'on est prêt ? Vous pensez qu'on est prêt ?
Oui, je pense que pour 2028, on est bien.
Ouais. Vous l'avez dit ce matin dans les 4V, donc moi j'y crois.
Alors, nous allons, ça nous fait ça, 4 bonnes réponses pour Billy, bravo. Voilà.
Merci.
Sûr de lui, Billy, il a enchaîné magnifiquement. Là,
bravo Billy, on ne sert à rien, mais vous êtes formidable.
C'est limite vexant, moi, je dis, franchement.
Alors Billy, on va tenter un jackpot. Là, c'est maintenant 10 bonnes réponses qu'il faut trouver en moins d'une minute si vous voulez remporter 500 euros. Alors attention, on lui souhaite bonne chance, les copains.
Allez, Billy.
Attention, top chrono. La femme de l'animateur Arthur, c'est Maréva Galanteur ou Linda Hardy?
Maréva Galanteur.
De quel pays Justin Trudeau est le Premier ministre?
Canada.
Combien il y a de A à Canada?
3.
Jack Dawson est un personnage de Titanic ou d'Alerte à Malibu? Jack Dawson.
Titanic.
Iggy Pop est australien ou américain?
Américain.
Luther est à l'origine du protestantisme, vrai ou faux?
Vrai.
Quand on tombe amoureux, souvent, on dit qu'on a un cœur de quoi?
De mince, je passe.
Quelle est la dernière consonne au mot artichaut?
D.
En 1622, quel titre religieux décroche Richelieu?
Cardinal.
Les frères Montgolfier sont nés au XVIIe ou au XVIIIe siècle?
XVIIe.
Vrai ou faux, c'est une femme qui a écrit La Princesse de Clèves?
Faux.
De quelle ville est originaire le groupe de rap IAM?
Marseille.
Qui est le plus jeune, le rappeur Jul ou Gabriel Attal?
Jul.
Renaissance est le parti du président?
Le président.
9 bonnes réponses. La 10e est arrivée après le gong. Et
l'artichaut vous a fait du mal.
Cœur d'artichaut, je l'avais après.
Alors, la dernière consonne du mot artichaut, c'est un T. Les frères Montgolfier sont nés au 18e. Et c'est une femme qui a écrit La Princesse de Clèves. C'est Madame Lafayette. IAM est originaire de Marseille. Voilà, et qui est le plus jeune, le rappeur Jul ou Gabriel Attal? C'est Jul, et plus jeune d'un an. Gabriel Attal a 34 ans.
Dommage,
Jul,
vous étiez brillant.
33 ans.
Franchement.
Donc, Billy, merci de vous être inscrit. Merci d'avoir joué avec vous. Et bravo, vous avez été brillant. Peut-être à une prochaine fois, qui sait. On va vous souhaiter une excellente après-midi.
Merci
à bientôt.
Salut.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Bonjour Camille.
Bonjour, bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Camille.
Bonjour Camille.
Vous nous appelez d'où vous, Camille?
Alors moi je vous appelle du côté de Béziers.
Que faites-vous dans la vie?
Je suis enseignante.
Pour la première question, nous allons jouer avec les archives d'Europe 1, Camille.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Il y a quelques jours, nous avons joué avec une interview culte, celle de Jean-Pierre Elkalbach et de Monica Lewinsky. Et bien aujourd'hui, parité oblige, nous allons jouer avec celle de Jean-Pierre Elkalbach et Bill Clinton. Écoutez, c'était il y a 20 ans, un 16 juillet 2004.
Il est 8h20, Jean-Pierre Elkalbach, on vous retrouve pour un entretien exceptionnel avec Bill Clinton.
Bill Clinton, bonjour, on est heureux de vous recevoir à Europe 1 et à Paris. Vous savez qu'en France, on aime Clinton, on aimait bien le Clinton d'avant, on l'aime bien aujourd'hui.
Jean-Pierre Elkalbach va évoquer avec Bill la fameuse affaire Monica. Et comme Jean-Pierre a lu le livre de Bill appelé « My Life », on apprend quelque chose sur le Clinton de 2004. Mais quoi ?
J'attends un peu les copains.
C'est sur son activité après le fait d'avoir été président ou...
C'est sur son activité personnelle ?
Oui. Alors, je vous fais trois propositions
par
parce
rapport
que
à
je suis
quand il montait à cheval.
Qu'il ne parle plus à une femme seule dans une pièce. Que chez lui, il ne dort plus sur le canapé.
La cataracte est la principale cause de cécité évitable au monde. Le métavers peut aider à traiter ce problème. La plateforme de réalité virtuelle, conçue par Fundamental VR et Orbis International, contribue à former des médecins au traitement de la cataracte, pour que davantage de chirurgiens puissent opérer en toute confiance dans le monde entier. Avec la formation en réalité virtuelle, les chirurgiens peuvent s'entraîner encore et encore pour acquérir des compétences. Meta et le métavers ont déjà un impact.
Il a rejoint le lit conjugal.
Dans la logique,
c'est ça.
Oui, en fait, il veut dire que sa femme l'a pardonné.
Elle l'a pardonné. Ouais, c'est vrai. Peut-être que... Ou ça. Alors sa femme s'est rendue compte que c'était un bon coup. Et elle lui a dit, Caroline, sur le canapé.
Tu dérapes, Caroline.
Restons sur le canapé et la réconciliation.
Qu'est-ce que vous pensez, vous,
Camille? Moi, je pense que c'est ça.
Allez, j'ai envie de suivre Caroline.
Attendez.
Qu'est-ce qu'elle dit, Caroline? Méfiez-vous.
Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Parce que vous savez.
C'était le canapé. Effectivement, on est plus sur le canapé.
Ouais, vous êtes d'accord. Moi, je pense ça.
Oui, oui.
Donc, je vous refais les trois propositions et vous me dites quelle réponse vous bloquez. D'accord, Camille? Alors, qu'il ne parle plus à une femme seule dans une pièce, que chez lui, il ne dort plus sur le canapé, ou que sa femme, Hilary, s'est mise au saxophone.
Oui, oui, c'est
Alors, pour moi, c'est pas la 3. Voilà. C'est ça. En quelle année, l'affaire Monica?
C'était bien avant.
Mais l'interview date de 2004.
Voilà, donc je pense que c'est
le
canapé.
Oui, mais du coup, c'est pour voir le décalage, et effectivement...
Attendez, je cherche l'affaire Monica. Vous savez qu'il faut être réactif.
Moi, je vous dis que c'est le canapé, c'est sûr.
Alors, je suis assez d'accord, je me dis que ça serait un peu d'humour.
Oui, ça serait une façon élégante de dire que ça s'est arrangé.
Je suis sûre que c'est ça.
Vous voyez, on est trois, on est tous OK.
On est unanimes, là.
Alors, attendez. L'affaire Monica, c'est en 1998.
Ça va, il a pardonné.
6 ans, il a dormi sur le canapé quand même.
Le mien, il serait parti.
Oui, c'est ça. Mélanie, est-ce que vous auriez pardonné,
Non, jamais de la vie. Mais
Donc, on reste sur le canapé.
On va rester sur le canapé.
Je bloque le canapé, si j'ose dire. Écoutez la réponse.
Vous reconnaissez qu'Hilary a vécu avec vous et à cause de vous des moments douloureux, hein? Je ne vais pas revenir sur l'affaire Lewinsky, vous vous expliquez longuement. Et on a bien compris en lisant le livre que vous ne dormez plus sur un canapé. Hein.
Yeah, that was nice to get off the sofa.
Oui, c'était sympa de ne plus dormir sur le divan.
Et on est content aussi de réentendre Jean-Pierre Elkalbach qui nous a quittés récemment. Alors aujourd'hui, Bill, il a 77 ans. Après tout, quand Joe Biden est devenu président, il en avait 78. Mais quand Bill est devenu président, lui, il en avait... 46.
J'avais 50.
Incroyable. Et il n'y avait que deux présidents américains qui avaient été élus plus jeunes que lui, Roosevelt et Kennedy. Là, on est plutôt dans l'excès inverse.
Oui. Là, il y a pile les deux. Hein.
Une bonne réponse pour Camille. Alors, on disait tout à l'heure qu'on avait découvert, bien sûr, Julie Zenati avec son rôle de Fleur de Lys en Notre-Dame de Paris. Et on va donc parler de ce monument français incontournable qui va bientôt rouvrir. On va jouer au bluff Europe 1.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Tu bluffes.
Le bluff.
Pas sûr.
Alors, je vais poser une question et chaque copain va proposer une réponse en essayant d'être le plus convaincant possible. Et Camille, vous allez devoir trouver la bonne réponse. Julie pourra vous aider. Notre-Dame de Paris a donc inspiré le chef-d'œuvre de la littérature du même nom publié par Victor Hugo en 1831. Mais savez-vous que la cathédrale est également à l'origine d'une expression imagée de notre langage courant, laquelle parmi mes trois propositions? À vous de trouver la bonne réponse. Alors Caroline, qu'est-ce que vous allez me proposer?
Ah, c'est tout simplement remettre l'église au milieu du village, Sophie. Mmh. Autrefois, les villages,
ça va dire mal.
Les villages étaient construits autour de l'église. Et même si c'est devenu une expression populaire, il s'agissait de remettre de l'ordre dans des idées, d'établir une hiérarchie dans ses actions, de définir ce qui est prioritaire et de revenir à ces débats sereins dans la cité qui était gérée par l'église.
Paris, c'est un village.
À l'époque, oui, j'ai bien dit. N'oublie pas que je suis le brocanteur.
Oui, oui, c'est vrai. C'est
et
vrai.
Est-ce que Paris a été construit autour de
notre cathédrale? Bon, on en a eu plusieurs quand même à Paris, mais ça veut dire donc tout simplement remettre l'église au milieu du village.
Remettre l'église au milieu du village, c'est la proposition de Caroline. Oui. Mélanie.
Moi, j'y crois pas du tout. Hein, parce que j'ai la bonne réponse, justement. Donc, l'expression, c'est attendre 107 ans. Vous le dites, je suis sûre. Vous
l'avez dit. Comme l'église au milieu du village.
En fait, il faut savoir que la construction de Notre-Dame, elle a commencé en 1168 et elle s'est achevée environ en 1296. Donc l'expression, elle est apparue en 1270, c'est-à-dire à peu près 100 ans après le début des travaux, qui vraiment, les travaux exaspéraient complètement les Parisiens. Ils en avaient marre, hein. Il y avait de la poussière, il y avait du bruit. Ça durait depuis plus d'un siècle, donc vraiment ras-le-bol. Et donc ce ras-le-bol est
et
resté.
Et encore, ils n'avaient pas eu Anne Hidalgo.
C'est ce que j'allais dire, Sophie. J'allais parler, ils avaient de la chance, parce que nous, c'est pas 107 ans qu'on attend.
Donc bref, vous vous rendez compte à quel point ce ras-le-bol est ancré dans notre culture populaire. On est encore, on est 700 ans plus tard et on dit toujours « Oh là là, je vais pas attendre 107 ans, quoi. »
Attendre 107 ans. Et Jean-Luc, que nous proposez-vous?
C'est très bien joué. « Oh, je vais pas attendre 107 ans, mais c'est pas ça du tout. » Non, il faut savoir
j'étais hyper crédible, mais en plus...
Vraiment pas. Je vous aime beaucoup, Mélanie, mais il y a des limites. Non, il faut savoir que là où ils ont construit Notre-Dame de Paris, avant, c'était un marché aux volailles. Ici, c'était un endroit très, très joyeux, mais très bruyant, puisqu'il y avait énormément de volailles. Tout le monde se retrouvait là. Et après, ils ont décidé de construire Notre-Dame de Paris à cet endroit. Donc, évidemment, les volailles ont été chassées et on a fait appel à des ânes pour transporter les pierres. Alors, c'était une autre ambiance, mais beaucoup plus calme, d'où l'expression « passer du coq à l'âne ».
Ça, c'est un peu tiré par les cheveux.
Celle-là, elle était un peu tirée par les cheveux. C'était très joli.
Il essaie de prendre un air sérieux, il le joue bien.
Excusez-moi, dès qu'on a du savoir, d'un seul coup, ça impressionne les gens.
Là, c'était un peu un conte pour enfants. On était vraiment sûr que... Non, c'était très joli. Vraiment. Alors, je récapitule. Pour Camille, remettre l'église au milieu du village, attendre 107 ans ou passer du coq à l'âne. Donc, laquelle, parmi ces trois propositions, est la bonne
Je précise que je suis la seule journaliste autour des trois chroniques.
Elle a dessiné sa carte de presse.
Voilà. Et moi, je suis la seule brocanteur dans la bande. Hein.
Moi, je penche pour 107 ans. Moi, je penche pour 107 ans. Et vous, Camille?
C'est la peine.
Alors, pas du tout celle de Jean-Luc.
Ouais. Vous avez raison.
Je vais vous laisser, merci.
Et après, je suis désolée, Jean-Luc. Après, j'ai envie de suivre Julie Zenati. Je trouvais que ça pouvait être bien réel, effectivement.
C'est une expression que vous utilisez souvent? Je ne vais pas attendre 107 ans.
Alors, ça peut arriver, notamment avec les enfants.
Ouais. En tout cas, c'est une bonne réponse.
Bravo.
Elle vous a tout expliqué, Mélanie. Hein. Donc, la construction a commencé en 1161, s'est achevée vers 1296. L'expression est apparue en 1270, un peu plus de 100 ans après le début des travaux. Et le ras-le-bol est ancré dans notre culture, puisque l'expression est restée
et
depuis...
Parfois, avec les enfants, on a l'impression que ça dure un siècle aussi.
Et 700 ans après, on l'utilise toujours. Ça fait deux bonnes réponses. C'est l'heure de notre nouveau jeu. Je vais vous donner trois citations. Dans chacune des citations, il manque un mot. C'est le même mot qu'il faut trouver dans chaque citation. Le but du jeu est simple. Retrouver ce mot mystère. Est-ce que vous êtes prêts?
On est prêts.
On joue avec Camille, mais les indices, vous devez les trouver autant que Camille. Et ce mot qu'on doit trouver a un lien avec l'univers de Julie Zenati.
Ok.
Vous êtes prêts?
Ouais.
Voici la première citation. Aucun chemin de ne conduit à la gloire. Une citation de Jean de La Fontaine dans la fable Les deux aventuriers et le trahissement.
Il faut faire des propositions.
Alors d'abord Camille, d'abord vous avez une idée, Camille?
Alors j'aurais pensé, je ne sais pas qui a dit traverse, j'avais ça.
Mélanie Gomez.
Traverse. C'était votre proposition, bon, Mélanie Gomez.
Hasard, hein, je ne sais pas.
Jean-Luc.
Bah, moi j'aurais dit traverse aussi.
Ah. Et Caroline.
Copieur. Moi j'attends la prochaine proposition.
Pas de flamme là, pas d'étincelle.
Non.
Deuxième proposition. Qui ne sait que la nuit a des puissances telles que les femmes y sont comme les plus belles.
Bon, oh, alors elle est pourrie, votre heureusement que j'ai
attendu. Dans son poème Portia.
Est-ce que vous pouvez répéter ce joli poème, s'il vous plaît?
C'est joli de dire elle est pourrie quand on fait une citation d'Alfred de Musset. Qui ne sait que la nuit a des puissances telles que les femmes y sont comme les plus belles.
Waouh.
Camille, une idée?
Non, et je me dis traverse, ça va pas du coup. Non.
On est d'accord. Hein.
Alors, je vous redonne la première proposition. Aucun chemin de ne conduit à la gloire. Deuxième proposition. Qui ne sait que la nuit a des puissances telles que les femmes y sont comme les plus belles. Ouais. Mélanie?
Alors là.
Fleur.
Lampadaire.
Fleur. Fleur. Plus belle.
Qui non. a dit
ah, c'est Fleur, Julie Fleur.
C'est Julie. Fleur, non, j'ai pas Jean-Luc.
Moi, j'étais sur non. Lampadaire.
Lampadaire.
Ou vache.
Alors, tout va bien.
Ou caravane.
Non, mais
caravane.
Fleur, c'est une bonne idée, je pense.
Caroline
Fleur.
Ah, je sais pas, mais moi j'ai vu Julie, donc moi je vais penser comme Julie. ça lui est sorti de sa tête.
Ça a alors, du sens, par exemple, c'est l'univers de Julie.
Bah oui, donc fleur.
Aucun plus. Chemin de fleur ne conduit à la gloire.
C'est ça.
Qui ne sait que la nuit a des puissances telles que les femmes y sont comme les fleurs plus belles.
Mais oui, c'est ça.
Troisième citation.
Ça marche aussi avec Caravane. Hein.
Je ne suis pas Raphaël.
Troisième citation, une citation de Pierre de Ronsard dans ses sonnets pour Hélène. Amour ailé ne dure qu'un printemps.
Elle est trop beau, Julie.
Alors, qu'est-ce que vous dites, Camille? Il faut bloquer la réponse. Hein.
Alors, je vais suivre Fleur, parce qu'en plus, ça fait référence au personnage de Fleur de Lys dans Notre-Dame de Paris.
Mais bravo. C'est une bonne réponse, magnifique. Aucun chemin de fleur ne conduit à la gloire, Jean de La Fontaine. Qui ne sait que la nuit a des puissances telles que les femmes y sont comme les fleurs, plus belles, Alfred de Musset. Et Amour et les fleurs ne durent qu'un printemps, Pierre de Ronsard.
Il est sympa ce jeu, j'avais jamais joué à ce jeu.
Si, moi je l'ai fait déjà il y a deux jours, sympa, j'ai adoré. Sauf que moi, c'est un peu compliqué pour une blonde comme moi.
Donc il est pas si pourri alors.
Ah non, il est génial, moi j'adore.
Elle avait osé dire qu'il était pourri
non,
le jeu.
J'avais pas dit que le jeu était pourri, j'avais dit que leur mot était pourri.
Bon, c'est pas ça.
Bon, en tout cas, ça fait trois bonnes réponses pour Camille. On peut saluer quand même la perspicacité de notre invité, Julie Zenati.
Merci beaucoup.
Qui vous a mis sur la bonne voie.
Ça fait quand même bonnes réponses.
Trois. Et encore une, et vous tenterez un jackpot à 600 euros. Vous êtes un peu une Barbie girl, vous, car vous avez eu la chance de chanter sur la bande originale du film Barbie et le cheval magique. Donc, nous allons poser une question Barbie à Camille. Barbie, qui est redevenue extrêmement populaire depuis la sortie du Carson. Film de Greta Gerwig l'été dernier. Un énorme succès, presque 6 millions d'entrées en France. Ouais. Une réussite visuelle avec ses décors pop, ses costumes colorés. Quel est le tout premier couturier à avoir dessiné des costumes pour la célèbre poupée Barbie dans les années 80? C'est la question que je vous pose, Camille. C'est donc la quatrième question. Hein.
C'est sûr.
Je vous fais trois propositions. Oscar de la Renta, Paco Braban ou Karl Lagerfeld.
Paco Braban, c'est ça? C'est qui celui-là?
C'est celui qui était visionnaire.
Ah, oui. Ah, c'est Karl, non?
Moi, je pense que c'est Karl.
Julie, vous avez une idée?
Ah non, ça doit pas.
Moi, j'aurais dit Oscar de la Renta.
Oui, c'est ça. Quelqu'un de proche des États-Unis.
Ah oui, c'est pas bête. C'est vrai, c'est
vrai. Que dites-vous, Camille, vous?
J'ai entendu Oscar de la Renta et je trouvais que l'argumentation était bonne.
Ouais.
Donc je bloque la réponse.
Donc on peut bloquer la réponse.
Je suis pas sûre. Hein.
Et c'est une bonne réponse.
Ouais.
Et notre Julie.
Elle est formidable.
Excusez-moi.
Deux fulgurances aujourd'hui.
On aime bien avoir des invités, mais si c'est pour nous humilier.
Ouais,
franchement.
Mais c'est tellement rare.
Prenez les imbéciles.
Je vais revenir.
Alors, le couturier a collaboré trois fois avec Mattel à partir des années 80 et chacune de ses créations s'arrache aujourd'hui à prix d'or sur les sites de vente aux enchères. À l'époque, Barbie n'était pas encore devenue l'objet tendance et culte qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Barbie qui inspire les créateurs du moment. On a vu beaucoup de roses dans les nouvelles collections des Versace, Chanel et même Courrèges. Elle a quand même quatre bonnes réponses.
Bravo Camille.
Dont deux grâce à Julie Zenati. Et moment intense, moment de suspense avec Camille qui tente le jackpot. 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Vous êtes prête Camille? Concentrée?
Allez Camille.
Je vais essayer.
On vous souhaite bonne chance. Attention, top chrono. De quelle couleur est l'émeraude?
Vert.
Vrai ou faux, dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y a de l'orange?
Faux.
Quelle île est la plus peuplée entre la Martinique et la Guadeloupe?
Martinique.
Qui est le meilleur ami de Bob l'éponge, Patrick ou Gérard?
Patrick.
Contre qui était Buffy?
Les vampires.
Combien de côtés a un pentagone?
5.
Dans quelle ville est née Marie-Antoinette, Salzbourg ou Vienne?
Vienne.
Qui écrit les romans d'horreur Sa, Carrie et Shining?
Stephen King.
Quel fast-food a des Big Mac dans son menu?
McDo.
Quel océan est le plus grand, le Pacifique ou l'Atlantique?
Pacifique.
Le couronnement de Charles III en Angleterre, c'était en 2023 ou 2022?
2023.
En 77, qui reprend l'hymne d'Angleterre en version punk?
Je passe.
Quelle Margaret était la dame de fer?
Thatcher.
À quelle doigt normalement? Thatcher. Les...
Sur le fil.
600 euros pour vous, Camille.
C'est mérité.
Bravo, Camille.
Bravo.
Ouais. Trop bien.
Félicitations.
Eh bien, on vous embrasse et profitez bien de cette somme qu'on est ravis de vous offrir sur Europe 1. Merci à vous, Camille. Merci. À bientôt, peut-être.
Mais merci à vous. Merci à toute l'équipe.
Bonjour, Vanessa.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Vanessa.
Qui nous appelle d'où, Vanessa?
Eh bien, je vous appelle de Agde, dans le sud de la France.
Où vous faites quoi?
Eh bien, je suis conseillère en gestion de patrimoine.
Ah, très bien.
Bon, pas quand on en aura, on vous appellera.
Voilà, n'hésitez pas.
Quelles sont vos passions dans la vie, en dehors de votre métier?
Eh bien, ma famille, mes amis, j'aime la rando et puis l'œnologie aussi.
Oh là là, quelle belle passion.
Voilà, ah, voilà. Tout à fait.
Vous avez des enfants qui ont quel âge?
Oui. Eh bien, j'ai une fille aînée qui a 18 ans et un fils qui a 15 ans.
Le choix du roi.
Voilà.
Et vous, nous avez découvert comment? Vous avez des enfants qui ont quel âge?
Oui. Eh bien, j'ai une fille aînée qui a 18 ans et un fils qui a 15 ans.
Le choix du roi.
Voilà.
Et vous, avez découvert comment?
Eh bien, à la rentrée, donc en écoutant Europe 1, j'ai été ravie de vous retrouver, Sophie, avec votre spontanéité, votre bonne humeur.
Ah, vous avez bien raison. Elle est addictive, elle est addictive, cette Sophie.
Oui, et oui.
Une question actu, art et spectacle.
Champagne
de Gard. Je sais pas,
mais bah, écoutez bien, la musique que vous entendez fait partie des chansons officielles du Puy du Fou.
Les chevaliers qui arrivent.
Le meilleur spectacle du monde.
Cocorico, le célèbre parc vendéen, a reçu à Los Angeles, à Hollywood, le prix du meilleur spectacle du monde.
On ne fait pas que des trucs pas bien en France.
Vous y êtes déjà allés, les amis?
Alors moi, j'aurais dû y aller, j'ai toujours pas été.
Viens, on va se faire un petit week-end.
On fait un minibus.
Et vous, Vanessa?
Non, jamais.
On pourrait faire un direct européen là-bas.
Il paraît que c'est un spectacle absolument formidable. Oui, oui. Donc, c'est vraiment une destination à choisir, surtout quand on a des enfants et qu'on veut les familiariser avec l'histoire de France. Alors, ce prix récompense un spectacle appelé Le Mime et l'Étoile. C'est une nouvelle production que l'on peut voir donc, au Puy du Fou, qui raconte au début du XXe siècle la rencontre entre un cigane et une star de cinéma. Alors, ça va donc être une question sur le parc du Puy du Fou. Savez-vous où se trouve le deuxième Puy du Fou? Est-ce qu'il se trouve en Espagne, en Autriche ou à Bamako? Car aujourd'hui, c'est un concept qui s'exporte.
Il y a un deuxième Puy du Fou.
Ça, c'est bien. Ça peut pas être en Espagne, c'est trop près.
Ah, moi, je pense à l'Espagne plutôt.
Ah ouais,
ouais, je pense à plutôt Europe.
Et Bamako, Vanessa, ou Autriche, Vanessa, vous pensez à quoi, vous, comme ça, spontanément?
Je pense que le second prix, oui, je, J'écouterai, vous me dites Bamako, Espagne,
Autriche ou Bamako. Ouais.
Autriche, il n'est pas assez
Espagne.
Beau.
Espagne.
Roland dit Espagne. Les
oui,
filles,
moi, tout ce que Roland dit, je crois. Donc, et je vais suivre Roland.
Donc, ouais. Je bloque l'Espagne.
Partons sur l'Espagne. Ouais.
Oh là là.
Partons sur l'Espagne.
Et c'est une bonne réponse. Ah, c'est la première, Vanessa.
Fort,
c'est Puy du Fou espagnol.
Merci Roland.
Il a ouvert en 2021 à Tolède, au centre du pays. En 2022, il y avait déjà 900 000 visiteurs. Et d'ici 2030, deux autres sites devraient ouvrir dans le monde.
Mais on peut se la péter
sans
les Français,
doute en Chine. Ouais. Et l'autre sûrement en Autriche ou en Italie.
Ah, c'est chouette.
En Autriche aussi, alors.
Voilà. Alors, on va continuer. Ça fait une première bonne réponse. Il en faut encore trois. Et voici une question vocabulaire en hommage à la semaine sur la langue française.
Stéphanie de Monaco. C'était pas ça la réponse.
Désir, trahir, maudire, rougir. Pourquoi on ne dit jamais ces choses-là? Un sentiment secret d'accord, un sentiment qui hurle fort comme un ouragan. La tempête en moi a balayé le passé. Un texte.
Oh, c'est beau ça.
Mais c'est Stéphanie de Monaco.
Mais dis donc, elle assure.
C'est le milieu,
ouais, le milieu des années 80. Ma question va porter sur les différents types de phénomènes météorologiques. Une question toute simple. Savez-vous quelle est la différence? Alors, Anissa, vous devez savoir répondre.
Non, alors, j'espère que je sais répondre, parce que si je ne sais pas répondre,
mais vous
là,
avez
vraiment...
suivi une formation à Météo France.
Oui, oui. Ah, on a il y a longtemps, j'ai peut-être oublié.
Connaissez-vous la différence entre un typhon, un ouragan et un cyclone?
Bon, bah, toi, tu sais, c'est sûr.
Absolument, bien sûr. Donc, je vais vous laisser répondre.
C'est la force.
Alors, est-ce qu'on utilise ces mots en fonction du sens de rotation du vent? Est-ce qu'on utilise ces mots en fonction de la force du vent? Ou est-ce qu'on utilise ces mots en fonction de l'endroit où a lieu le phénomène? Première intuition de Vanessa?
Je dirais l'endroit, mais... Oui, plutôt, je dirais peut-être, sur la terre ou sur la mer. Enfin, j'aurais, cette idée-là, typhon sur la mer. Ou, mais bon, voilà, c'est vraiment.
Donc, vous me diriez la troisième réponse. Qu'est-ce que vous dites, les amis?
Moi, j'aurais dit la force. Mais en même temps, l'endroit, ça peut être aussi.
Et Anissa?
Bah, moi, je dirais l'endroit en fonction de si c'est l'océan Pacifique, l'océan Indien. Voilà. C'est, moi, je dirais l'endroit.
L'endroit.
Mais
bon,
non, mais après.
Vanessa, il faut la croire. Hein.
Puis Vanessa, c'était votre première réponse, donc je pense qu'il faut la garder.
Si je me trompe, vous n'écoutez plus la météo sur Europe 1 tous les matins.
Si, parce que c'est pas toi qui l'a fait, justement. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous dites, Vanessa? Est-ce qu'on bloque...
Allez, réponse 3. Oui, je suis mon intuition.
Je bloque votre réponse. Effectivement, vous avez raison. C'est une question de lieu, mais pas les lieux que vous croyez. C'est Anissa qui a raison. Ainsi, dans les Caraïbes, dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est, on parle d'un ouragan. Dans le Pacifique Nord-Ouest, c'est un typhon. Et partout ailleurs, c'est un cyclone.
C'est
on
bizarre.
Dit cyclone aussi dans les Caraïbes. Hein. J'ai déjà entendu parler d'un cyclone dans les Caraïbes. Mmh. Bon, en fait, ça fait deux bonnes réponses. Bravo à vous, Vanessa. Voici le qui ou quoi.
Qui Europe 1. Le qui ou quoi.
Alors, il va falloir deviner de qui ou de quoi on parle. Vous êtes prête?
Je vous écoute.
Écoutez bien.
À la base, c'était pas le domaine de Blaise. Comme quoi, les maths, ça mène à tout.
Il a eu raison trop tôt. Quand ça a vraiment pris, il était mort.
C'était le 17e siècle. À l'époque, tout le monde n'était pas mélangé avec tout le monde.
Je pense pas qu'à l'époque, ils avaient conscience qu'ils révolutionnaient le monde.
Je les prends au quotidien et j'avoue, pour les petits trajets, je fraude.
Non, c'est une belle idée. Après, c'est comme tout, ça dépend comment c'est fait.
Alors, franchement, Vanessa, il n'est pas facile aujourd'hui.
Ah, non, il n'est pas facile. Non,
est-ce que vous avez une idée comme ça qui vous vient?
J'irais les transports en commun, mais bon.
Alors là, vous me scotchez, j'ai failli tomber de ma chaise, tellement vous êtes forte. Mais c'est, vous avez
incroyable.
La
bonne réponse. Pas du tout.
Vous y aviez pensé?
Mais pas du tout. Mais d'où ça sort de votre tête, Vanessa?
Qu'est-ce qui vous a guidé vers cette réponse?
Les petits trajets, de temps en temps, j'ai entendu je fraude. Donc,
des années de fraude de Vanessa aussi. C'est
voilà.
Eh bien, c'est en France que tout a commencé avec Blaise Pascal. Le 18 mars 1662, à cette époque, Paris est la deuxième ville la plus peuplée du monde après Londres, 500 000 habitants. Blaise Pascal va faire circuler des carrosses pour la somme de 5 sols. Mmh. On parcourt le trajet qui va de la porte Saint-Antoine au Luxembourg. Seuls les gens de « qualité » entre guillemets peuvent monter. Tout va s'arrêter en 1677, mais tout recommencera 150 ans plus tard.
Incroyable. Je savais pas, donc c'est l'inventeur du transport.
Ouais. Allez, voici une question anatomie, Vanessa.
Le rasoir électrique couvrait la chanson de Clara.
Alors, je sais pas si vous la connaissiez, celle-là, mais elle s'appelle la fille au rasoir de Gainsbourg. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'invention du rasoir. C'est en 1931 qu'est né le premier rasoir électrique. Voici ma question qui, promis, ne sera ni poilante ni rasoir.
Wow.
Chez les hommes, les poils du visage qu'on peut appeler la barbe poussent, à votre avis, plus vite l'été, plus vite l'hiver ou exactement aussi vite en été qu'en hiver?
Bon, on va laisser répondre Vanessa pour le moment, mais moi je pense avoir la réponse.
Alors, moi j'aurais tendance à dire peut-être plus vite l'hiver puisqu'il fait froid et donc voilà, pour se protéger
vous dites plus vite l'hiver.
Moi j'aurais dit l'été avec les UV, ça donne de la mélatonine.
J'ai toujours entendu dire, Anessa, que la chaleur et l'été, on a les cheveux et les ongles qui poussent beaucoup plus vite.
Bon, bah alors je vais vous écouter. Allez, je vous écoute.
Ouh là là. Eh bien là, pour une fois, si j'ose dire, Anessa, ils vous ont bien aidé. C'est vrai que la barbe pousse plus vite l'été que l'hiver. Et pas qu'un peu, figurez-vous.
Beaucoup.
60% plus vite l'été.
Ah oui.
La raison, c'est que les températures augmentent, elles vont faire en sorte que la circulation sanguine va s'accélérer. Cela va alimenter les follicules pileux. On peut comparer ce processus à la forêt amazonienne, à la saison des pluies. Et puis, il y a plus de soleil, donc plus de kératine.
Et voilà.
Ça favorise le poil, mais la nature est bien faite.
Bah, écoutez,
car l'été, il fait chaud, on a beaucoup plus de poils, mais comme ils sont plus fins, on n'a pas trop chaud.
Ah, d'accord, oui, d'accord.
Okay. Enfin, moi, si je suis sûre que mes cheveux poussent, je vais vivre dans le sud ou en Afrique.
Là, il faut aller au soleil. Hein.
Ça fait 4 bonne réponse pour Vanessa. 1 200 € dans le jackpot.
Il est gros le jackpot.
Vanessa, pour pouvoir remporter ce jackpot, il faut que vous me donniez 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Ok Vanessa?
Ok.
Bonne chance à vous.
Elle est déjà concentrée.
Rapidité.
Oui.
Attention Vanessa. Top chrono. Qui a chanté Heart of Glass, Blondie ou Tina Turner?
Blondie.
Quelle Sophia a réalisé au cinéma Marie-Antoinette en 2006?
Je passe.
Louis XVI a été guillotiné au XVIIe ou au XVIIIe siècle?
Au XVIIIe, pardon.
18e. Qui a beaucoup fait pour la patate, Antoine Parmentier ou Jean-Louis Hachy?
Parmentier.
Dans le jeu Mario, Mario doit sauver une princesse ou son copain Luigi?
Une princesse.
Popeye a une moustache ou pas de moustache?
Pas de moustache.
Dans le jeu Mario, Mario a une salopette ou un manteau de fourrure?
Une salopette.
Socrate a vécu avant ou après Jésus-Christ?
Avant.
Vrai ou faux, la Laponie, c'est uniquement en Finlande?
Faux.
Vrai ou faux, un renne et un caribou, c'est pareil?
Faux.
Au cinéma, quel Indiana a été joué par Harrison Ford?
Jones.
Comment on dit violet en anglais?
Purple.
Aïe, 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 aïe. Sur le gong, juste après le gong.
C'est vraiment dur.
Ah bah oui. Allez, on vous embrasse, Vanessa.
Merci beaucoup pour ce moment.
Bonjour Fabrice.
Bonjour à vous tous.
Et bonjour Fabrice.
Où vivez-vous, cher Fabrice?
Alors moi, je vis sur un bateau.
Incroyable, c'est le rêve de Sophie, Fabrice.
Voilà,
à quel endroit?
Alors, je suis au centre de la France, parce que bien souvent, on pense que c'est sur la côte, mais moi, je suis sur les eaux douces.
Sur un lac?
Ah, ouais. Ah oui.
Non, en fin de compte, c'est pas un lac, hein, parce qu'il y a des ports à plusieurs endroits. Là, entre autres, c'est le port de Decize, qui est pas loin de Nevers, pour situer. Ouais. Mmh. En fin de compte, on utilise les canaux, quoi, les canaux de France, quoi. Mmh.
Ah ouais, c'est une péniche, quoi.
C'est pas une péniche, c'est une vedette hollandaise. Donc moi, elle a l'avantage de faire les deux. C'est-à-dire qu'elle va aussi sur les canaux intérieurs, mais elle fait aussi la côte, quoi. Hein. Donc je peux aussi aller en Angleterre, en Corse.
C'est l'occasion de découvrir la France, de la visiter.
Oui, alors voilà, parce que par la route, on découvre la France, même les villages, j'allais dire côté façade. Alors que nous, on passe côté jardin, quoi.
Et ouais, c'est vrai, c'est beau.
Vous n'avez jamais envie de revenir dans un logement qui ne bouge pas?
Alors, ma femme travaille, on a le logement, quoi, en ville, sur Moulin. Et non, moi, la semaine, comme je ne travaille plus, je suis sur le bateau.
Sur le bateau tout le temps.
Le week-end, quand elle ne travaille plus.
Qu'est-ce que vous faisiez avant comme métier?
Moi, j'étais dans les métiers du bois, donc l'agencement intérieur. Et après, je suis passé en termes de luthier.
Voilà.
C'est luthier, c'est bien ça.
Ouais.
Donc, j'étais luthier. métier et j'ai énormément travaillé avec le handicap, l'associatif. J'étais moniteur éducateur d'atelier bois, quoi. Et donc je travaillais avec tout ce public.
Bravo. Depuis quand écoutez-vous Europe 1, Fabrice ? Racontez-nous.
En fin de compte, depuis tout petit. J'avais mon père qui était pâtissier.
Oui.
Et dans l'atelier, dans le labo, quoi, il y avait toujours Europe 1 et dans la voiture, pareil.
Ça tombe bien que vous écoutiez Europe 1 depuis longtemps, puisqu'on va jouer avec les archives d'Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Et petit cadeau, aujourd'hui, on va retrouver le grand Jean-Pierre Bacri face à Frédéric Taddeï. Il recevait en 2011 Jean-Pierre Bacri, 10 ans avant sa disparition.
C'est vrai que le sourire, c'est quelque chose que je trouve assez... de la bimbloterie, quoi.
Galvaudé, vous voulez dire ?
Oui, c'est du toc, c'est quelque chose que tout le monde se file à longueur de temps, qui ne veut absolument rien dire, qui est un truc de verpé, de... Oui, effectivement, je souris quand on me fait sourire, ou je souris spontanément. J'ai des convictions personnelles qui font que j'ai envie de vivre d'une certaine façon et pas d'une autre.
Il n'a pas envie de sourire. Non, voilà. Pendant cet entretien, on apprend plein de choses sur les premiers métiers de Jean-Pierre Bacri. Il a été balayeur, rédacteur de pub, serveur, banquier, et il a failli être prof de français. Et c'est ma question. Pourquoi n'est-il pas devenu prof de français ? Trois propositions. Il a privilégié ses tournois de bowling parce qu'il a trop joué au poker avec des Corses, ou parce qu'il faisait de l'escrime. Il a eu un accident avec 2 mois d'hôpital.
Wow. De l'escrime ?
Ouais.
Ah, 2 mois d'hôpital avec l'escrime, c'est compliqué.
Il a privilégié ses tournois de bowling. Il a trop joué au poker avec des Corses.
Bon.
Ouais.
Ah, 2 mois d'hôpital avec l'escrime, c'est compliqué.
Il a privilégié ses tournois de bowling. Il a trop joué au poker avec des Corses.
Bon.
Où il faisait de l'escrime.
C'est drôle.
Il a
c'est
eu rigolo. Un accident avec 2 mois d'hôpital. Alors.
Fabrice.
Alors je suis pas trop chaud par rapport à l'escrime.
À moins qu'effectivement il soit tordu la cheville et il a 2 mois été alité, mais tu peux travailler quand même.
Alors vous n'êtes pas chaud sur l'escrime, et donc sur le bowling, vous êtes plus chaud sur les Corses.
Bowling et les Corses.
Les Corses, c'est drôle, mais quand même.
Oui, c'est vrai que c'est drôle. Après, je le vois bien faire sûrement des soirées avec les amis, ainsi de suite.
D'ailleurs, on les embrasse parce qu'on est beaucoup écouteurs.
Je trouve ça trop précis pour que ce soit inventé quand ils disent trop jouer au poker, d'accord, mais avec des Corses.
Ouais.
Pourquoi la précision des Corses ? Donc, à mon avis, c'est la bonne réponse.
Oui, c'est pas faux.
Si on raisonne en termes d'écriture,
allez, il faut bloquer une réponse.
C'est peut-être la bowling, ça ressemble pas à Jean-Pierre Bacri.
Donc,
on va pour la première, j'écoute Jean-Luc. Ouais.
Alors attendez, la première, c'est le bowling. Alors la deuxième, il a trop joué au poker avec des Corses.
Allez, on bloque.
Alors les Corses ou le bowling ?
Ah, le bowling.
Ah, le bowling.
Il n'a pas dit ça, hein ? Il a dit les Corses.
Ah bah les Corses alors.
Donc les Corses.
Oui, pardon.
Alors écoutez.
Pourquoi finalement ça ne s'est pas fait ? Pourquoi n'êtes-vous pas devenu professeur de français ?
Parce que j'ai fait une fac de lettres et puis ensuite j'ai fait un an de fac de lettres un peu tronqué parce que je joue au poker avec des Corses. Et donc j'ai surtout appris le poker là-bas.
Vous jouiez bien au poker ?
Je joue un poker qui est inusité maintenant, c'est le poker fermé, quoi.
Vous n'y jouez plus ?
Non, je joue plus parce que j'ai perdu pas mal. Et puis justement, après cette période de fac et de dette, je suis devenu un autre.
Vous avez joué, Caroline, au poker fermé ?
Alors moi, le problème du poker, c'est que c'est vraiment un jeu d'argent. Si tu joues pas d'argent, ça n'a aucun intérêt et je déteste les jeux d'argent. Donc non, je ne joue pas au poker.
Bon, en tout cas, c'est une bonne réponse pour Fabrice. On va jouer au chiffre du jour.
Europe 1.
1 180 000 centimes.
Non.
Je vais finir dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Le chiffre du jour.
Un chiffre qui a un rapport avec l'univers de notre invité. Si je vous donne le chiffre 9, Fabrice, est-ce que c'est le pourcentage de déchets plastiques qui sont recyclés ? Est-ce que c'est l'âge auquel Samuel Le Bihan a commencé sa carrière ? Ou est-ce que c'est le nombre de spectacles qu'a présenté François-Xavier de Maison ? Et on sait que c'est vous qui avez poussé François-Xavier de Maison à monter sur scène. Alors, le chiffre 9...
que 9.
Fabrice a une intuition, une idée, les copains ouais, en ont une. Alors, oui, je vous écoute.
Par ce que j'ai entendu, j'irai plus sur la troisième.
Le nombre de spectacles a présenté François-Xavier oui. Demaison.
Que seulement 9
non. Non, non. Non, non, moi je dirais autant parce que je connais bien François-Xavier et il a fait, je crois, 4 solos ou 5 maxi, mais après il a fait d'autres pièces.
Ça, c'est sûr qu'il
si, c'est un spectacle solo, il n'en a pas fait 9.
Non, non. Ah bon ah, c'est beaucoup 9
C'est beaucoup 9, mais finalement c'est beaucoup.
Après, sur les déchets plastiques.
Ouais.
Moi, ça me paraît pas mal. Hein, parce que je sais qu'on recycle très très mal le plastique en France.
Oui,
vous dites 9%, c'est ça
ouais.
Oui.
C'est juste, après, moi je pense que c'est plus plausible, mais je voudrais connaître le rapport.
Oui, avec Samuel. Moi aussi, parce qu'il est où le rapport
Samuel, Samuel est très engagé.
Il recycle lui-même. Parmi les engagements, il y a aussi la pollution plastique. Ouais, ouais. Non, il y a 10 ans, j'ai monté une association qui s'appelle Earthwake, qui a une autre particularité, qui a aussi développé une entreprise. Mais ça, c'est parce qu'on voulait apporter des solutions sur les déchets plastiques pour les pays émergents. Et donc, alors, l'idée, c'est de donner...
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Fabrice, on bloque
Ça sent bon, là, quand même.
Je suis parti dans mon explication.
Bonne réponse
Merci.
Allez, on joue au bluff européen dans l'univers de Samuel.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Tu bluffes.
Le bluff.
Pas sûr.
Alors, comme votre nom l'indique, vous êtes breton, même si vous êtes né en Normandie.
Oui.
Hein. Nous allons dans le Finistère Nord, sur l'île Vierge, au large de Pouguerneau, où il ne se trouve pas grand-chose à part un gîte éco-responsable. Et quoi ? C'est la question à laquelle il faut répondre. Les copains vont vous faire 3 propositions, Fabrice, et il faut que vous trouviez la bonne réponse. Parmi ces 3 propositions... Jean-Luc.
Oh bah ça va être très facile pour Samuel, hein, s'il est d'origine bretonne. On trouve sur l'île Vierge le plus haut phare d'Europe qui culmine, tenez-vous bien, à 82 mètres de hauteur. Et si vous voulez monter tout en haut du phare, il faudra gravir 383 marches. Bah là, ça a l'air de rien, mais c'est le plus haut d'Europe.
Caroline.
Alors moi, je vais être beaucoup plus rapide, parce que quand on commence à s'expliquer, c'est qu'on raconte du pipeau.
Et puis surtout, t'as pas beaucoup de cartouches.
Ouais, alors moi, ça va être très, très clair. C'est le plus grand
pour une fois, il a rien à dire. C'est assez rare. C'est assez rare.
Je la sens capable de broder, quand même.
Non. Alors, tu vas voir, c'est très simple. C'est le plus grand menhir de France. Ouais. Samuel, il est tout à fait au courant. Là, il fait 9,50 m et il date de 4000 ans. Ah mais Samuel est tout à fait au courant de ça.
Laisse Samuel en dehors de tout ça.
Et Thomas.
Non, mais c'est drôle, parce que quand même, on parle de la Bretagne, alors il y en a un qui va nous parler évidemment d'un phare, l'autre qui va nous parler d'un dolmen, d'un menhir. Bon, d'accord, ils ne sont vraiment pas allés chercher très loin.
Ça serait une galette.
Maintenant, je vais vous dire la réalité de ce qui s'est passé. En fait, il se trouve qu'en Bretagne, il y a dans ce petit coin la plus grande colonie de lynx qui a été réunie. Oui, de lynx. Alors, ce n'est pas énorme, hein, ça représente 36 lynx.
Il y avait des champignons à la cantine tout à l'heure.
Lynx boré. Non, mais vraiment. Et donc, c'est. Alors vous me sortez un menhir. Un menhir, ça n'a aucun intérêt.
Excusez-moi, mais ça, c'est plus une proposition. C'est du bizutage.
Non, c'est assez surprenant et c'est d'où l'intérêt de poser la question parce que sinon cette question n'aurait, avouons-le, pas beaucoup d'intérêt. Donc Fabrice, je vous le dis, c'est la plus grande colonie de lynx qui est réunie en Bretagne dans cet endroit.
Ouais. Fabrice, alors, qu'en pensez-vous ?
J'ai un doute c'est parce que c'est pas trop la région, quoi.
Qu'est-ce que vous disiez, Samuel ?
Bah peut-être qu'il y a un gîte et un... Et il fait des crêpes, peut-être tout simplement.
Mais vous confirmez, Samuel, qu'il y a beaucoup de lynx en Bretagne.
Non, je ne savais pas du tout.
Pour Jean-Luc, il y a le plus haut phare d'Europe, pour Caroline, le plus grand menhir de France, et pour Thomas, la plus grande colonie de lynx en Bretagne.
Je vais aller pour le phare.
Le plus haut phare d'Europe, et vous avez raison, c'est une bonne réponse.
Bon, c'était plus
construit au 19e siècle, culmine à plus de 82 mètres de hauteur, 383 marches. On pense d'ailleurs que le nom de l'île vient de sa chapelle qui était dédiée à la Vierge Marie. Voilà.
Mais moi j'aimais bien l'idée des lynx.
Bah oui, c'était
beau.
Mais il y a des lynx en Bretagne, hein, c'est quand même vrai. Ah bon hein, quand même des lynx
moi je vous rappelle que j'ai pas menti. Hein. Le plus grand menhir fait 9,50 m.
Ce qui est sûr, c'est que Fabrice a 3 bonnes réponses.
Il y en a eu à une époque, quoi.
Va jouer au mot mystère.
Ah, le pouet-pouet. Allez,
je peux vous dire que c'est difficile de jongler entre un jeu et ces thématiques de l'autisme, sujets importants de société. Le mot mystère, donc ce petit pouet-pouet, remplace le mot que vous allez devoir trouver, Fabrice. Je vais vous donner 3 citations. C'est un mot qui a un rapport avec l'univers de notre invité. À vous de le trouver. Première citation, Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point de... sans courage, ni de vertu, sans combat. Il n'y a point de sans courage, ni de vertu sans combat. Une idée, une première intuition. Fabrice,
non, pas dans les médias.
Samuel, il l'a.
Samuel, il l'a.
Vous avez dit quoi ?
Moi, j'ai pensé à Victoire.
Il n'y a point de victoire sans courage, ni de vertu sans combat, mais c'est pas ça.
Et pourtant, c'est beau, parce que c'est un très joli prénom, d'ailleurs.
Alors, vous allez comprendre que c'est pas ça, parce que la deuxième citation de Sigmund Freud, « Le est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Le
moi, ça me
est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. » Donc, ça peut pas être la victoire.
Ouais.
Alors, Fabrice, une idée ?
Ouais, j'ai essayé de réfléchir. Non, là, pas d'idée, non.
Jean-Luc ?
Nutella ?
Couscous boulette ?
Il n'y a point de sans courage, ni de vertu sans combat. Le est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte.
Le succès ?
Le succès est un rêve d'enfant.
Un enfant, ça rêve pas de succès.
Et alors, si je vous donne la troisième, vous allez trouver. Écoutez bien, Fabrice. Fuir-le de peur qu'il ne se sauve.
Le bonheur.
Il est où le bonheur ?
Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Bonne réponse ! Et c'est la quatrième.
Bravo Samuel quand même.
Et c'est un clin d'œil au titre de roman de Samuel, Le bonheur que je ne souhaite à personne. Premier roman ?
Oui, c'était.
C'est bizarre comme titre.
C'est l'histoire d'une mère qui a un enfant handicapé qui se bat pour qu'il soit scolarisé.
Donc, on n'est pas si loin du sujet du. Enfin,
oui, on n'est pas si loin, évidemment. C'est un sujet que j'explore, puisque c'est assez proche de ma vie privée aussi, puisque c'est pas un secret, ma fille.
Elle a quel âge, votre fille?
Elle a 12 ans, elle va à l'école. Elle souffre du syndrome autistique, mais elle a énormément progressé. Elle a franchi énormément, fait tomber beaucoup de barrières. Petite, elle parlait pas, elle mangeait pas, elle était dans une extrême violence, et puis aujourd'hui, elle a plein d'amis, elle est très douée pour les langues, pour la musique, elle danse, elle a un courage inouï et qui lui a permis d'évoluer de façon insensée, puis elle a une soif de sociabilisation aussi.
Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Andjia.
Voilà, je voulais juste Andjia, c'est beau. Allez, on va jouer avec Fabrice. Il y a un jackpot en jeu, 600 euros à gagner si vous me donnez 10 bonnes réponses. Allez, ok, Fabrice ?
Allez, Fabrice.
Super.
Allez, exercice de rapidité. Attention, bonne chance à vous. Attention. Top chrono. Hanoï est la capitale de l'Indonésie ou du Vietnam ?
Vietnam.
Le film Mort à Venise, c'est Pasolini ou Visconti ?
Visconti.
La dernière chanson de Raphaël, c'est 35 heures ou heure sup ?
35.
La maman de Michel Sardou, c'était Valentine ou Jackie ?
Jackie.
Le papa de Michel Sardou, c'était Eddie ou Fernand ?
Fernand.
Quel Georges a chanté Quand je pense à Fernande ?
Oui, ça passe. Parce que...
Qui présente la météo le matin sur Europe 1 ? Mélissa ou Anissa ?
Anissa.
Michel Sardou a chanté le rire du général ou du sergent ?
Sergent.
Que signifie le haut dans ONU ?
Le haut, la partie haute.
Quels sont les animaux dans le film de Disney La Belle et le Clochard ?
Le chien.
Quelle est la racine carrée de 9 ?
3.
Dans quel Disney il y a la chanson du printemps, Rox et Rookie ou Bambi ?
Bambi.
Vrai ou faux, chez les dieux, Zeus et Jupiter, c'est une seule et même personne.
Même personne.
Aïe. Après le gong, c'est horrible. 9 bonnes réponses, c'était super bien joué.
Ça c'est joueur.
Quel Georges a chanté Quand je pense à Fernande ?
Je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi.
Moi j'adore parce qu'on a droit ces chansons.
Ouais, on a
le droit. Ouais. Ça fait du bien un peu quand même.
Librement. Oui, on a le droit de demander, vous avez raison. C'est un combat.
Fabrice, merci.
Salut Fabrice. Merci à tous et à tous les copains pour les bonnes réponses et votre aide.
Bonne fin d'après-midi. Merci à vous.
Juste un petit mot pour Samuel. Pour avoir travaillé avec le handicap pendant plus de 25 ans, ne lâchez rien.
C'est gentil, merci beaucoup.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739 21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Vous retrouverez Sophie et les copains en direct dès lundi prochain pour une émission spéciale musique. Classique, rock, jazz, disco, chansons françaises, années 80 ou 2000. Bref, vous pourrez à nouveau jouer et chanter avec Sophie Davant et sa bande et leur invité. Leur invité, ce sera Nicoletta, qui fête au passage ses 80 ans avec l'album Nicoletta, l'intégrale. Voilà pour nos programmes de nuit, c'est fini. Et oui, il est bientôt 5h, bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être. Nous sommes le mercredi 17 avril et le soleil se lèvera tout à l'heure à 6h55. L'info arrive dans un instant avec Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Et pour accueillir toute l'équipe d'Europe 1 Bonjour, une artiste britannique ce matin, pleine de promesses, elle s'appelle Lucent. Voici Sweet Tooth. Bon réveil avec Europe 1.
I tried once, twice, but I don't know how. How do I get your taste out of my mouth? You pick me up whenever I'm down. But when the highway's off, I'm still on the ground. Why are all the bad things that make you feel good things? They hide but never fix things. When you're around, I'm lost in a candy shop. And I tell myself it's gonna last when I know it's not. Why are all the bad things that make you feel good things? They have but never fix things. Whoa. Why are all the bad things that make you feel nice things? They never think.
Europe 1 Bonjour.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue, vous êtes sur Europe 1 et on est ravis de vous accompagner ce mercredi matin. Europe 1 Bonjour, 5h-7h, avec Omblin Roche, bien sûr. Bonjour Omblin.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
J-100, bah vous vous en souvenez.
Ça y est, c'est tout rond.
Hein, ça y est, ça ne nous échappera pas. Il reste 100 jours avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques. Bah, c'est l'occasion ce matin sur Europe 1 de voir où nous en sommes, des préparatifs, où en sont les travaux pour accueillir les athlètes et les touristes du monde entier cet été. Si l'on l'on parle toujours de sport et de foot cette fois, on peut déjà se réjouir de l'exploit du PSG qui a renversé Barcelone hier soir 4-1 et qui se hisse en demi-finale de la Ligue des Champions. Au Proche-Orient, Israël entretient le suspense et ne laisse rien filtrer de ses intentions de riposte contre l'Iran. Benjamin Netanyahou face à des pressions du monde entier pour éviter la guerre. La grande galère du commerce solidaire, on va entendre son appel à l'aide ce matin sur Europe 1. Le marché de la seconde main écrasé par les géants du commerce en ligne. Le site Label Emmaüs enregistre une hémorragie de sa clientèle depuis le début de l'année. Maud Sarda, patronne et fondatrice de Label Emmaüs, réclame des mesures d'urgence. Elle vient nous en parler à 7h20. On va aussi s'intéresser à notre façon de parler, à nos tics de langage du quotidien. Bah, on en a tous, hein. Du coup, tu fais quoi au jour d'aujourd'hui? Ah, j'avoue, je sais pas. Ça roule, pas de souci. Bon, vous voyez l'idée? Il y en a beaucoup, hein. L'autrice Sarah Bellement l'a compilé 100 des comme ça, hein, des tics de langage dans son livre et vient vous en parler à 6h20. Juste après le journal, Ombline, les initiatives en France.
Oui, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises le matin. La consigne connaît un nouvel engouement. Je vous présente aujourd'hui Drink Dong. C'est une jeune entreprise qui livre sur le pas de notre porte des bouteilles en verre consigné. Le principe est très simple, hein. Il livre et il récupère. Voilà les initiatives en France dans 20 minutes.
Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Alexandre, bonjour Ombline, bonjour à tous.
Votre histoire dingue à 5h15. Vous allez nous emmener en Colombie contre la sécheresse, oui, hein, qui préoccupe aussi la Colombie. Le maire de Bogota, la capitale, a donné un drôle de conseil à ses administrés. Un conseil coquin, je crois.
Bah, écoutez, un conseil qui, pour lutter contre la sécheresse, pourrait rapprocher des couples ou créer de nouvelles histoires. En tout cas, protégeons la planète et faisons des câlins. Je vous donnerai tout en détail.
Pour plus de détails, à 5h15. Votre météo de ce mercredi, on n'est pas en Colombie. Hein. Côté sécheresse, là, on est plutôt protégé ce printemps. Oui. Il fait encore plus frais ce matin, hein, ou c'est une impression?
Non, ce n'est pas une impression. Les températures baissent encore depuis lundi. C'est la dégringolade des températures. Ce matin, on a même des petites gelées sur les plaines auvergnates. Donc, des moins 1, moins 2, rarement plus. Mais enfin, il fait frais, hein, dans le centre de la France.